ne savaient pas quoi faire. Ils ont été mis dans une filière, ça n'a pas fonctionné, du coup ils se retrouvent sans rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mis de côté et qui ne réussissent pas à faire la démarche, parce que ce n'est pas facile, de se réintégrer dans un système classique.
Chaque année, en France, 100 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme ni qualification. Pour chacun d'entre eux, c'est un échec personnel, mais c'est aussi l'échec du système. Un échec coûteux pour la collectivité, on estime à 230 000 euros par personne, sur la durée d'une vie, les frais induits par la mésinsertion sociale. On compte par exemple les prestations sociales, les indemnités de chômage ou encore les frais de santé. En 2000, l'un des objectifs du sommet européen de Lisbonne était de faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus dynamique du monde, notamment en réduisant le taux de décrochage. La France a donc développé une série d'outils pour y parvenir. Et de fait, la situation s'améliore depuis une dizaine d'années.
Sans ça, j'étais perdue. Hein. Sans l'école de la deuxième chance, ils sont derrière toi pour te motiver. Après, tu te dis que tu ne vas pas les décevoir. Ils sont là pour toi. Chaque moment, chaque instant, ce que tu demandes, ils t'aident.
Il existe ainsi à l'échelon local ou national une bonne dizaine de dispositifs plus ou moins bien connus qui permettent aux décrocheurs de raccrocher. On parle de dispositifs relais, de lycées expérimentaux, de micro-lycées ou encore d'EPID, les établissements pour l'insertion dans l'emploi. Marina Capitaine vous propose d'en découvrir trois, en commençant par le service militaire volontaire, le SMV, créé il y a 5 ans sous la présidence de François Hollande.
Ce service militaire volontaire proposera à des garçons comme à des filles des formations de 6 à 12 mois sous contrat avec l'armée, avec une formation civique, une remise à niveau scolaire et une formation professionnelle.
La revanche des décrocheurs scolaires, c'est un reportage de Marina Capitaine avec Benjamin Chauvin, Lucien Lefebvre et Martin Troadec à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour. Bien respect, comme Roger.
Salut.
Allez, à la veille.
5h45, à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne. Comme chaque matin, c'est l'heure du réveil pour les stagiaires du SMV. Comme son nom ne l'indique pas, le service militaire volontaire n'est pas un service militaire, mais une formation proposée par l'armée dans 6 centres en France, parmi lesquels cette ancienne base aérienne sur laquelle nous nous trouvons. Dans ce long couloir, les jeunes qui sortent de leur chambre deux par deux ont entre 18 et 25 ans. Pendant 8 mois, ils enchaînent remise à niveau scolaire et stage en entreprise. Mais tout commence par la découverte de la vie à la militaire, à l'opposé de leurs habitudes passées.
Section Carrefour, à droite, droite. Volant et colonne, base, 2, 3, 4, déboîté, direction le petit déjeuner.
Reçu en avant.
Au pied du dortoir, la trentaine de jeunes se regroupent. Ils portent tous la même tenue, veste et pantalon de jogging bleu, siglé SMV.
Temps de colonne, reçu en avant.
Tout se déroule sous le regard attentif de celui qu'on surnomme ici la nounou, l'adjudant Sébastien.
Au début, il y en a certains, ils vont vous dire oui, on vient pour la discipline, on vient pour tout. Et en fait, et quand on passe au concret, en fait, non, finalement, ils ne voulaient pas tant de la discipline que ça. On leur fait comprendre que ben, la discipline, ça fait partie du jeu. Donc, généralement, ils reconnaissent l'autorité militaire. Et de toute façon, l'autorité militaire a fait ses preuves au niveau de discipline. Quoi. Donc, généralement, ils rentrent vite dans le moule.
Comment on fait passer justement cette autorité sans les braquer ?
Ben, un gros travail de pédagogie qui est fait en amont. Déjà par le sport et puis l'exemplarité du cadre. Je le dis et je le fais aussi. Il faut gagner leur respect. Et leur respect, ça se gagne par quoi ? Et bien, par la droiture de tous les jours et même en sport. Pour pas mal, ça fait longtemps qu'ils font plus de sport. Ils peuvent faire jouer aux jeux vidéo et tout. Et ils voient un mec de 40 ans, par exemple, et tire et tout, et c'est admissible et d'eux-mêmes. Et un jeune, le soir, je passais dans le bâtiment, je voyais qu'il faisait des pompes et de traction et je le taquinais. Et à chaque fois, il me voit, il me dit « Bon, j'ai encore progressé, mon adjudant, j'ai encore progressé. » Ça, le motif.
Leur objectif, c'est de vous battre à la fin de la formation, quoi.
Pas que moi, mais ils sont satisfaits quand même, parce qu'il y en a pas mal quand même qui perdent pas mal de poids quand ils arrivent ici. En fait, ils arrivent à trouver quand même une hygiène de vie qu'ils n'avaient pas forcément chez eux. je prends des situations pour les faire rire. Je dis, eh ben, dans 2 mois, vous serez capable de courir pour aller prendre votre bus et tout. Vous allez arriver à votre entretien. Vous ne serez même pas essoufflé, à peine transpiré. Vous allez dire, eh ben, heureusement que le sport, ça fait durer. Donc le sport, ça fait partie intégrante du début, quoi.
Le réveil comme ça à 6h du matin et le petit déj dans la foulée, c'est pas trop dur, ça va, surtout en hiver?
Au début, oui, c'est dur, mais on s'y fait. Sur les, on a à peu près 2 mois pour s'y faire et après, il faut suivre. Même si c'est un peu dur.
Vous sentez que vous vous êtes habitué, votre corps il s'est habitué aussi, oui. Au réveil tôt le matin, maintenant ça va?
Oui, même des fois quand je suis en QL, je me lève tôt.
Ils ne s'habituent pas tous. 15% abandonnent au bout des 2 premiers mois. Qu'est-ce qui fait tenir ceux qui restent? Il y a la perspective d'un emploi stable dans une grosse entreprise comme Disneyland ou la SNCF. Mais aussi la solde mensuelle allouée tout au long de leur formation. 344 euros par mois en étant logés, nourris, blanchis, mais pas maternés. Tous les matins, les stagiaires se partagent les tâches ménagères, la serpillière dans les couloirs, par exemple.
Ça, c'est quelque chose que vous faisiez avant de venir en formation au SMV?
Pas du tout,
à la maison.
Pas souvent.
Pas souvent?
Non. Mais c'est bien, ça. Ça nous permet d'être propre chez nous, par la suite.
Vous y prenez goût, du coup?
Oui.
Qu'est-ce que ça apporte dans une formation de nettoyer l'endroit où vous vivez, où vous êtes en interne?
Bah déjà d'avoir un espace un peu plus sain. Même pour vivre, c'est agréable.
Moi, changement de direction. Une pointe à droite. 1, 2, 2, 2, 2.
Je t'aime, ma patrie. Pour tes mondes, je suis fier. Pour la jolie de tes fleuves toujours clairs, pour tes grèves que soulèvent les flots cibles, pour en voir briller les yeux.
Eh bien, je suis le lieutenant-colonel Didier, officier supérieur adjoint du 2e régiment du service militaire volontaire.
La spécificité de cette formation, c'est évidemment son aspect militaire.
Alors c'est un des aspects qui caractérise ce dispositif. L'ensemble de l'encadrement de ces jeunes est donc militaire, même s'il y a un environnement de la formation avec quelques personnels extérieurs au ministère des Armées, mais c'est véritablement la militarité, ce qui permet à nos jeunes, lorsqu'ils arrivent, d'acquérir très très rapidement un certain nombre de savoir-être. On agit énormément sur le comportemental et sur des valeurs qui nous sont propres et qui sont très importantes à nos yeux. La confiance en soi, la trouver ou la retrouver. Et développer autant que faire se peut la cohésion pour que les jeunes puissent s'entraider et que de cette manière-là, ils puissent tous être tirés vers le haut. C'est un dispositif d'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire qu'on prend le jeune de bout en bout pour l'amener vers l'emploi en prenant tous les aspects que peut présenter le jeune. S'il a des difficultés sociales, on s'en occupe. S'il a des difficultés familiales, on essaye de voir un petit peu comment régler ces problèmes-là et l'amener surtout vers cet emploi qui est l'objectif final au bout de 8 mois de présence chez nous. Jusqu'au dernier jour, ils sont militaires. Mais nous n'avons pas vocation à en faire des soldats. Ce côté militaire s'exprime plus particulièrement durant les 6 premières semaines de leur formation. Et quand je dis que l'on n'en fait pas des soldats, c'est que ces jeunes, durant ces 6 semaines, ne font pas de combat et n'utilisent pas d'armement.
Alors que font-ils de militaires?
Alors, de militaires, eh bien, ils apprennent le béaba que tout soldat apprend, même dans les forces armées. C'est-à-dire qu'il faut qu'il acquiert toutes les connaissances de l'environnement dans lequel il évolue, en apprenant notamment les grades, en apprenant à marcher au pas, à chanter ensemble, qui est encore un autre phénomène de cohésion. Enfin, il pratique également énormément de sport au départ, et là les jeunes, parfois certains d'entre eux ou d'entre elles, découvrent qu'ils ont un corps, parce qu'après les premières séances de sport, on se rend compte que ça fait parfois un petit peu mal, et la condition physique est un élément essentiel qui leur permet de s'épanouir de manière saine.
Tout ça, la militarité, l'internat, qu'est-ce que ça apporte à des décrocheurs scolaires ?
Ça leur apporte surtout un suivi complet, c'est-à-dire qu'on a une organisation qui fait que le jeune est très très proche de son encadrement. Il a un encadrement de proximité. Et ce sont toujours les mêmes qui les suivent du premier au dernier jour. Et donc il y a une connaissance parfaite par l'encadrement de la jeunesse qui l'encadre. Je vous disais une première phase où on acquiert des savoir-être, des savoir-faire aussi. Et puis, dans une deuxième phase, effectivement, ils ont une période de remise à niveau scolaire pour ceux qui sont véritablement peu ou pas diplômés, grâce à des professeurs de l'éducation nationale qui sont détachés à temps plein chez nous, mais qui ont mis en place des méthodes pédagogiques qui sont différentes de celles que l'on rencontre dans les collèges et lycées, mais tout simplement parce que on organise cela par atelier et on a un suivi, je dirais, scolaire individualisé. Il y a un terme, moi, qui me tient à cœur pour l'encadrement, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que les cadres, au quotidien, leur montrent ce vers quoi il faut aller, pourquoi il faut se violenter parfois un petit peu pour réussir, car on n'a rien sans rien. Nous sommes là, ici, pour les aider, mais il faut qu'ils s'aident eux-mêmes. Et ça, ils le comprennent très rapidement. C'est un travail sur eux-mêmes qui leur permet d'avancer et de se rendre compte que finalement, effectivement, ce qu'ils n'ont peut-être pas pris la peine d'apprendre ou voulu apprendre en milieu scolaire normal, eh bien, finalement, ici, ils y trouvent leur compte.
Ces jeunes, au casier judiciaire obligatoirement vierges, ont souvent une situation familiale et sociale difficile, un parcours chaotique, parfois marqué par l'usage de drogue. Hors micro, le lieutenant-colonel confesse qu'encadrer les stagiaires peut être un sacerdoce, une mission, je cite, « épuisante », au point que des psychologues se tiennent à disposition des cadres. Ces membres de l'armée, détachés de leur poste de base pour venir dans ces centres, n'y restent jamais plus de 3 ans, justement à cause de la difficulté de cette mission. Ils ne sont pas les seuls adultes au contact des jeunes. Il y a aussi les profs de l'éducation nationale, évoqués plus tôt par le colonel, et enfin des intervenants envoyés au SMV par les entreprises partenaires pour formater les jeunes en vue de leur stage. Par exemple, ceux qui iront à Disneyland n'ont pas besoin de parler couramment anglais. Ils vont apprendre les quelques termes incontournables pour travailler avec les touristes.
Comment vous dites ce mot ?
Ouais, je m'en doutais. Tous les Français font ça. Hein. C'est pas vous. Gentleman, bah oui. C'est EL au son. Gentleman. Vas-y, vas-y.
Gentleman.
D'accord, les autres ?
Gentleman.
Eh ben voilà, c'est pas mal. Bon, on est bon.
Alors moi je me présente, je m'appelle Hazard, j'ai 23 ans, j'habite dans le 94, dans le Val-de-Marne, à Villejuif. J'ai connu le SMV grâce à un ami qui est passé par le SMV et qui m'a dit que c'était une très bonne expérience et il n'a pas menti. Je suis dans la filière SNCF Mobilité. J'ai choisi d'être conducteur de bus puisque c'est un métier qui m'intéresse beaucoup et j'ai de la famille qui est dans le métier. Il y a beaucoup d'opportunités ici puisqu'il y a beaucoup de filières. Il y a la restauration, il y a Disney, nous, notre filière SNCF Mobilité. Il y a des plombiers, si je ne me trompe pas. La logistique, il y a beaucoup de filières, de métiers proposés. Il y a le permis aussi. Le permis, c'est quelque chose qu'on fait dans le civil. C'est assez cher. Ici, on a l'opportunité de le passer gratuitement. Et quand on a le permis de conduire, on peut plus facilement trouver un métier, je pense. Et ça aussi, c'est vraiment une très belle opportunité qu'on a ici, qui peut très certainement nous servir à la sortie du SMV. On a 8 mois, il faut savoir qu'on a 8 mois. Pour certains, 8 mois dans le civil, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi. Ici, on nous met tout en œuvre pour pouvoir trouver un emploi. On nous aide dans les CV, dans la préparation d'une lettre de motivation, l'élocution. Voilà, pour beaucoup de points comme ça qui nous servent pour plus tard, pas que dans le métier. Ça nous apprend beaucoup pour la vie aussi, en général. En sortant d'ici, je pense pour la plupart, On peut sortir le menton relevé, le torse bombé, on est avec la confiance en soi. C'est un point très important, la confiance en soi. Parce qu'avoir confiance en soi, ça peut tout changer, du tout au tout, vraiment. Comme j'ai vu, on a eu une cérémonie très récemment. J'ai vu des parents, ils étaient fiers de leurs enfants. Ils ont vu que leur posture avait changé, puisque sans vous mentir, quand je suis arrivé au SMV, j'avais pas la même posture que maintenant.
Posture physique.
Enfin, oui, posture physique. Même si j'avais confiance en moi, tout ça, mais j'étais pas. Là, je marche plus sereinement, je suis droit dans mes baskets.
Et là, je peux dire que vous vous tenez devant moi, vous vous tenez bien droit.
Voilà.
C'était pas le cas avant.
Voilà, avant, j'étais un peu plus relâché. Là, je suis bien. Voilà. Vraiment, c'est le SMV. Et avec les opportunités qu'on a, on se doit d'être rigoureux, appliqué. Et même dans le code du volontaire, on a une phrase qui dit appliqué et consciencieux. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, d'être appliqué et consciencieux. On sait que ça va nous servir tôt ou tard.
Attention pour les couleurs.
C'est mon collègue.
Envoyez.
Ayez de l'ambition. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, ayez cette ambition de réussir. Voilà, donc soyez fiers de vous. Et puis dernier mot, soyez heureux de vivre. Soyez heureux de vivre, soyez heureux de ce que la République française vous apporte, soyez heureux d'avoir des cadres aussi dévoués. Et puis soyez heureux pour vous-même. Et c'est comme ça que vous réussirez.
Régiment, on va !
Interception. Sur France Inter.
Le service militaire volontaire souffre encore d'un déficit de notoriété. En effet, toutes les places ne sont pas pourvues. Déficit de mixité également, car 20% des stagiaires seulement sont des jeunes femmes. L'école de la deuxième chance est l'un des autres dispositifs ouverts aux décrocheurs. C'est un héritage du très court passage à Matignon, entre 1991 et 92, de la seule femme Premier ministre de la Ve République, Edith Cresson.
C'est pas la réponse à tout, c'est la réponse à une partie du problème sur une population particulièrement sensible et désarmée, qui n'a aucun moyen de se faire sa place dans la société, qui sera un boulet pour la société, qui sera un gâchis absolument formidable parce qu'ils ont du potentiel et on le gâche, on passe à côté. Donc j'ai toujours pensé qu'il fallait faire quelque chose de très déterminé dans ce sens.
Il y a aujourd'hui 130 écoles de la deuxième chance sur tout le territoire. En 2018, elles ont accueilli 15 000 jeunes de moins de 26 ans. 60% d'entre eux en sont sortis avec un emploi ou une place dans une formation qualifiante. À Châlons-en-Champagne, Marina Capitaine rencontre Solène Fabien, formatrice à l'école de la deuxième chance.
Bonjour.
Il y a un parcours type où, par exemple, il y a une période d'intégration et d'essai où ils sont là 3 semaines, après 2 semaines en entreprise. Et sur cette période, on va faire des entretiens avec le jeune, définir son projet pro. On va travailler aussi tout ce qui est le côté social. Par exemple, on va l'aider dans des démarches de logement. On va l'aider à mettre à jour ses papiers au niveau de sa sécurité sociale, faire des demandes de CMU. On est en lien permanent avec eux. Et même les cours. Une fois que le projet professionnel est défini, par exemple, on a un jeune qui veut travailler dans le bâtiment. Notre formateur en maths, il va, par exemple, travailler sur ce qui est surface, calcul de la surface, pour que lui, après, ça lui serve dans son projet professionnel. En fait, on va tout le temps s'adapter au projet professionnel du jeune et aussi sa personnalité. Enfin, on va essayer de valoriser au maximum ses compétences et lui faire prendre conscience aussi de ses compétences pour l'amener voilà à s'insérer professionnellement et aussi socialement et en tant que citoyen. Et ça marche plutôt bien. Et je pense que tous les formateurs à l'école de la deuxième chance sont quand même très bienveillants. Et je pense que le fait qu'on croit en eux, ça joue beaucoup dans la réussite de leur parcours.
Les jeunes stagiaires sont de plus en plus jeunes. Chez vous, à l'école de la deuxième chance, le taux de jeunes de 16 ou 17 ans a plus que doublé là en 5 ans. Donc, ils sont de plus en plus jeunes, ils sont aussi de plus en plus fragiles. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est le signe de quoi, cette évolution?
Il y a une difficulté de s'intégrer dans le système scolaire qu'on rencontre chez la plupart des jeunes et aussi ceux qui arrivent ici. Il y a aussi un défaut d'orientation. Je vous dis ce que les jeunes me disent. Hein. Voilà, ils savaient pas quoi faire, ils ont été mis dans une filière, ça a pas fonctionné, du coup ils se retrouvent sans rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mis de côté par le système classique et qui réussissent pas à faire la démarche, parce que c'est pas facile, de se réintégrer dans un système classique. C'est pour ça que le 2C a aussi ce rôle-là, de les remobiliser, et on a beaucoup de jeunes qui partent après en apprentissage.
À l'heure actuelle, il y a 60% des jeunes qui passent chez vous qui sortent avec soit un emploi, soit le début d'une formation. Qu'est-ce qui s'est passé pour les 40% restants? Quels sont les obstacles, parfois les difficultés qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas?
Alors, il y a peut-être certains jeunes qui arrivent qui sont pas prêts à s'insérer professionnellement. Ça veut pas dire que parce qu'ils sont pas prêts maintenant, ils seront pas prêts plus tard. Après, il y a des paramètres aussi qui sont non maîtrisables. Il y a des difficultés familiales, des difficultés sociales, des choses comme ça. Et puis, je pense qu'il faut aussi la maturité à être, enfin, faut être prêt. Mais bon, je pense qu'il faut se dire que si c'est pas le moment là, ça sera peut-être un jour, peut-être que nous, on amorce et que ça sera une autre structure qui après prendra le relais. Et voilà, on aura toujours fait ce travail en amont. Il n'y a rien qui est perdu au final.
Donc là, on va traverser l'école pour aller en cours. Alors ici, on ne dit pas en cours, on dit en atelier. Mais en fait, c'est en cours. On ne dit pas non plus élève, on dit stagiaire. Ce n'est pas un hasard. Tout est fait pour casser les codes d'une école classique.
Ok, donc vous faites le message écrit. Enfin, l'écrit téléphonique, pardon. L'appel téléphonique, donc vous allez m'écrire tout ce que vous dites à un employeur quand vous recherchez un stage. Comment vous vous présentez, comment vous motivez, argumentez votre demande et conclure.
On entend que c'est un cours de français, mais c'est déjà axé sur la recherche d'emploi. La prof de français leur parle de la présentation d'entreprise, de rédiger son CV, savoir se vendre aussi. Ça fait partie du cours.
C'est un stage, après, vous pouvez faire si vous recherchez un emploi, mais pour l'instant, on est dans le cadre d'un stage, plus par rapport à vous. Ça va, Inès? Vous comprenez les consignes?
On a quitté l'école de la deuxième chance, mais on est toujours à Châlons-en-Champagne, à 5 minutes de voiture. On est devant l'entrée de l'AMAPA. C'est une association au sein de laquelle travaille une ancienne stagiaire de l'école de la deuxième chance. Elle a signé un CDI il y a quelques mois. Elle est aide à domicile ici.
Bienvenue à l'AMAPA.
Marina, enchantée.
Bonjour Virginie Debargue.
Ravie de vous recevoir.
Ravie de vous accueillir.
Alors, je m'appelle Madame Pansa Morena. J'ai 24 ans et je suis assistante de vie auxiliaire d'aide à domicile depuis le 8 juillet 2019.
Avec le recul, maintenant que du temps a passé, comment vous expliqueriez votre parcours? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu votre bac, par exemple?
Je vais dire la jeunesse. À cet âge, on veut plus écouter nos parents, on fait ce qu'on veut. Donc, à un moment donné, si on n'a pas envie, on abandonne vite. Et quand il y a des moments de regret, on veut tout bien faire et faire nos chemins. Après, moi, j'ai une petite fille, maintenant elle a 4 ans. Je dois être là pour mon enfant, du coup, j'ai tout donné. Jusqu'ici, je donne tout, tous les jours.
Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé en métropole, quand vous avez été dirigé sur l'école de la deuxième chance? Est-ce que c'était stressant? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous étiez resté sur un mauvais souvenir du coup?
Tout d'abord, je vais vous dire, j'ai refusé d'entrer en école de la deuxième chance. Quand je suis arrivée, j'ai fait l'inscription à la mission locale, tout. Puis ma conseillère m'a dit qu'elle allait m'inscrire à l'école de la deuxième chance. Moi, j'entendais école de la deuxième chance. Donc, retour à l'école, j'ai pas aimé. Du coup, j'ai pas demandé comment ça allait se passer. C'était comme l'école normale. Puis après, je suis restée chez moi un mois, tout ça. J'ai dit non, c'est pas pour moi de rester à la maison. J'ai envie de sortir, voir ailleurs, même si c'est l'école, j'allais voir. C'était pas facile. En 9 mois, j'ai galéré pour trouver le stage. Mais j'ai insisté. À chaque fois, je déposais ma candidature. Je le voulais. Et puis, quand je l'ai eu, j'ai tout donné. Suite à ça, la directrice m'a fait une lettre de recommandation pour la formation d'assistante de vie. Et puis, maintenant, me voilà assistante de vie, auxiliaire de vie.
Ici, dans cette entreprise, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un défi au début de faire vos preuves? Est-ce qu'au début, ça a été difficile? Est-ce que vous vous êtes tout de suite sentie à l'aise ou pas?
Ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai fait mes preuves. Après, il y a eu le retour de ma tutrice à la directrice, forcément. Et puis, c'était merveilleux. J'ai tout donné pour avoir ce que je voulais, d'être ce que je suis aujourd'hui.
Est-ce que c'est un petit peu une forme de revanche aussi sur la vie, d'avoir accompli tout ce que vous avez fait?
Oui. Puis on continue, ça ne s'arrête pas là. Même maintenant, c'est encore un peu difficile. Je veux dire, j'ai pas encore le permis, je fais mon métier à pied, mais si j'avais pas mon métier, mon diplôme, ça allait être compliqué.
Ça a été une rampe de lancement en quelque sorte, cette école de la deuxième chance.
Oui, parce que sans ça, j'étais perdue. Hein. Sans l'école de la deuxième chance, ils sont derrière toi pour te motiver. Après, tu te dis que tu vas pas les décevoir. Ils sont là pour toi chaque moment, chaque instant. Ce que tu demandes, ils t'aident.
Ce sont les histoires comme celle de Morena qui justifient l'existence et le coût des écoles de la deuxième chance. Alors, pour avoir le meilleur taux possible de jeunes en sortie positive, c'est-à-dire qui quittent le dispositif avec un emploi ou une formation à la clé, il est capital de trouver des entreprises qui vont accueillir les jeunes en stage et plus si affinité.
Bonjour, messieurs.
Nous sommes maintenant à Paris, où l'école de la deuxième chance compte un partenaire prestigieux, le grand magasin Le Printemps.
Ça va, Serge ?
Mais ce n'est pas au milieu des clients du boulevard Haussmann que nous emmène François Brazet. Le directeur du patrimoine du Printemps est aussi celui qui gère le partenariat avec l'école. Il nous emmène dans les entrailles du magasin.
Les jeunes de l'école qu'on va rencontrer ce matin sont plutôt dans des services support du magasin. Donc on va peu aller dans les beaux espaces du luxe, on va plutôt descendre dans les sous-sols, notamment dans des zones logistiques. Et puis dans des espaces techniques, on a beaucoup de stagiaires dans ces métiers-là, mais on en a aussi certains qui sont dans la surface de vente. Donc là, on va cheminer dans les couloirs du troisième sous-sol qui vont nous faire passer sous tous les bâtiments du Printemps. Là, on est en train de passer sous la rue de Provence. Et puis après, on va passer sous la rue Comartin pour arriver dans l'atelier. On va notamment aller dans un local qui est dédié à la soudure, dans lequel Tano a fait ses premiers pas avec un chalumeau à la main. J'ai d'ailleurs à ce titre-là une photo juste formidable, ici même.
Bonjour, je m'appelle Aïtano, j'ai 22 ans et je suis apprenti au Printemps. J'ai eu un parcours très difficile parce que moi j'étais en Afrique et je travaillais dans l'entreprise de mon père avant qu'il décède. Et retour en France, je ne savais pas trop ce que je voulais faire.
Pourquoi vous n'êtes pas rentré dans le cursus scolaire classique quand vous êtes arrivé en France?
Franchement, pour moi, je me disais que j'avais pas de niveau. C'est pour ça. Ouais, j'avais pas de niveau, alors j'ai préféré directement travailler dans ce domaine-là.
Mais c'est pas quelqu'un qui vous a dit que vous aviez pas le niveau? Vous-même, vous aviez pas trop confiance en vous? Peut-être vous vous disiez vous-même que vous aviez pas le niveau?
C'est moi-même, ouais. Parce qu'en Afrique, j'étais pas allé à l'école. J'étais plus sur les champs en train de travailler et aider ma famille. au départ, je n'avais pas l'envie. Ouais, parce que tout ce qui est école, c'était pas trop mon truc, mes bases et tout. Je voulais pas vraiment apprendre, on va dire. Et suivi des stages que j'ai pu effectuer dans les différentes entreprises, et celle du printemps, où ça m'a beaucoup plu. Et là, j'ai retrouvé l'envie d'apprendre.
Ouais. Du coup, vous avez repris confiance en vous ?
J'ai repris confiance en moi compte tenu des stages que j'ai fait au printemps. Parce que ce stage m'a beaucoup marqué. J'ai aimé ce que j'ai fait, surtout dans le domaine de la plomberie. C'est ça qui a provoqué un déclic chez moi et je me suis accroché.
Qu'est-ce que vous espérez pour la suite de votre parcours professionnel ?
Le plus important pour moi, c'est au moins avoir un diplôme. Pour rendre un peu un témoignage de mon parcours, si je devais conseiller les jeunes qui sont en difficulté, c'est de rien lâcher, de croire à ses rêves, surtout être motivé, la persévérance pour pouvoir faire le métier que vous voulez plus tard.
Après un stage, on peut passer à de l'apprentissage, on peut passer à de l'embauche. Donc l'intérêt du printemps, c'est ça aussi, hein, c'est tout simplement pouvoir recruter demain des profils qui correspondent à nos besoins. Et en logistique, on a beaucoup d'embauches. On a 3 contrats d'apprentissage à la maintenance. On espère convertir demain dans des emplois en CDI définitifs. Donc on a aussi un intérêt à recruter des gens dans des métiers où il n'y a pas forcément beaucoup de personnes sur le marché. Donc ça nous permet de les former aussi à nos métiers pour répondre à nos attentes. Et puis d'accompagner ces jeunes qui ont très souvent un moral et une motivation incroyable.
C'est lié à quoi cette motivation ? Comment vous la voyez ?
Alors, il y a plusieurs profils à l'E2C1. Il y a des personnes qui ont commencé des cursus tout à fait classiques et puis à un moment ou un autre ont eu un problème dans leur vie qui font qu'ils ont tout abandonné, qui décident de repartir. Et donc le nom de deuxième chance, ça prend tout son sens. Hein. Ils sentent bien qu'il n'y en aura pas 36, hein, donc ils ne veulent pas rater la deuxième. Donc effectivement, il faut déjà, rien que par la charge de travail et le temps y passer, il faut déjà une grande motivation pour arriver au bout des 10-12 mois de passage à l'école de la deuxième chance.
Il faut qu'ils s'accrochent.
Il faut vraiment s'accrocher. Voilà. Et nous, on est là pour leur dire que s'ils s'accrochent, ça peut marcher. Et on a aujourd'hui, après 2 ans et demi d'expérience, nous, on peut témoigner que ça marche. Il y a aussi une vraie valeur, c'est pour les équipes qui reçoivent les jeunes. Il y a une notion de transmission de savoir, et ça, c'est très important. Et les personnes qui commencent à faire ça, on ne peut plus les arrêter, quoi. Quand on n'a plus de stagiaires, ils viennent en demander, quoi. Quand est-ce qu'on reprend le prochain stagiaire ? Parce qu'il y a ce côté, je transmets un savoir, et puis je participe tout simplement à la vie de la société, quoi. Enfin, un peu de façon différente de venir au boulot tous les jours et rentrer chez moi.
Comme vous le disiez, c'est vraiment une école du pragmatisme, en fait, hein, cette école de la deuxième chance. C'est-à-dire que tout de suite aussi, on va diriger les élèves sur des filières, des branches dans lesquelles il y a de l'emploi, il y a des possibilités de travail et d'embauche. Est-ce que certains ne doivent pas laisser derrière eux certaines ambitions, aussi certains rêves parfois, pour trouver du travail ?
Alors, effectivement, c'est un des risques. C'est pour ça que très rapidement, après les premiers stages, les jeunes doivent présenter leur projet professionnel devant un comité à la fois d'enseignants, de représentants d'entreprises, de représentants de la mission locale de Paris. Et ça nous permet aussi de détecter que c'est un vrai projet et que c'est pas un projet juste de nécessité, mais qu'il y a aussi une envie de le faire. D'autre part, ce qu'on peut noter, c'est que les jeunes qui sortent de l'E2C ne font pas tous de la logistique ou de la maintenance, même si c'est des très beaux métiers. Mais on a quelques belles réussites. On parlait tout à l'heure d'un architecte qui est à l'école d'architecture. On a quand même un jeune qui est à Sciences Po. On a des gens qui font de la comptabilité. Donc tous les métiers sont ouverts, les métiers de la vente, les métiers de la restauration. Il y a beaucoup de jeunes qui s'orientent aussi vers les métiers du soin, en tant qu'aide-soignante, voire infirmière. Et nous, on les encourage énormément à ne pas s'arrêter au premier diplôme ou au premier emploi. Donc je pense que tout notre travail, c'est effectivement de montrer qu'un échec dans sa vie, c'est pas forcément un handicap. Et même au-delà, ça peut être une vraie chance, parce qu'il y a une motivation qui découle de ça, qui est juste incroyable, quoi.
Vous tenez ce discours autour de vous, parfois, dans votre réseau, justement, de dire « mais vas-y, prends-le, si tu vas voir, il va super bien bosser, etc. » De faire du prosélytisme.
Tous les jours. Chaque fois que je peux parler de l'E2C, je parle de l'E2C. C'est une aventure extraordinaire, avec des réussites incroyables. Quelques échecs, évidemment, il ne faut pas se mentir. On n'arrive pas à sortir tout le monde. Mais voilà, il faut aller de l'avant. La grande action de l'E2C dans les mois qui viennent, c'est de recruter encore des entreprises avec des profils différents, surtout pour montrer toutes les possibilités qui existent aux jeunes qui sont en demande, tout simplement.
Plus académique est la formation dispensée par le lycée municipal pour adultes de la ville de Paris.
Chaque année, quelques 300 personnes s'y inscrivent pour préparer le bac. Au bout de 4 ans, 50% d'entre eux décrochent le diplôme. Financé par la ville, il est ouvert, moyennant 130 euros par an, aux adultes qui ont interrompu leur parcours scolaire. Seule condition, pouvoir se rendre aux cours qui ont lieu le soir et le samedi. On retrouve Marina Capitaine dans le sud de la capitale.
Interception sur France Inter.
Voilà, nous sommes rue d'Alésia, dans le 14e arrondissement de Paris, devant le lycée pour adultes. Il est un petit peu avant 18h. Mais ici, ce n'est pas la fin de la journée, c'est le début, puisque les élèves, on les appelle des auditeurs, viennent en cours du soir. Ça commence à 18h, ça se termine à 22h. Allez, on y va, on va à la rencontre de la proviseure du lycée. C'est Françoise Noël Joty, elle dirige l'établissement depuis 12 ans maintenant.
Ça va et vous?
Bien, merci, bonsoir.
Est-ce qu'on est parti pour une petite visite de votre
Allez, ah oui, alors je vais peut-être mettre ma veste quand même. Voilà, donc là on arrive dans la partie la plus ancienne du bâtiment. Tout à l'heure on était dans la partie plus récente qui a été construite dans les années 60, ajoutée au bâtiment d'origine. Voilà, avec une sorte d'atmosphère très propre au cours du soir. C'est-à-dire que c'est à la fois la nuit. C'est vrai, hein, il fait nuit noire à l'extérieur. Et cependant, il y a une sorte de chaleur humaine qui se dégage un peu de cette effervescence juste avant les cours. Et puis voilà, vous voyez les sourires, les élèves, ils sont les auditeurs, donc comme on l'a dit, hein, ils sont super contents d'être là, ils se mettent au travail, ils sortent leurs trousses, leurs crayons.
C'est une ambiance particulière.
C'est une ambiance très particulière, les cours du soir. Et en général, ils sont très attachés à cela. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils reviennent tous les soirs, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose en fin de journée et dans leur vie, grâce à ces cours du lycée d'adultes.
Ce lycée pour adultes, ici à Paris, il est unique en France.
Alors, il est unique à Paris, en France, oui. Et c'est vrai qu'on aimerait qu'il y en ait d'autres, puisqu'il y a d'autres gens qui aimeraient venir. Chaque année, on a au moins une personne qui vient s'installer depuis la province pour profiter de ce dispositif.
En quoi il est unique ?
Alors, il est unique d'abord parce qu'il n'y a pas d'autres lycées de ce genre, si ce n'est dans quelques lycées privés qui font ce qu'on appelle des classes du soir. Mais surtout, il est unique parce qu'il accueille toutes les personnes, sans prescription d'abord, hein, d'un tiers, mais toutes les personnes qui ont donc à partir de 18 ans, puisque c'est un lycée d'adultes, sans limite d'âge. Voilà, donc on a ici une moyenne d'âge d'environ 30 ans. Mais de toute façon, tout le monde est bienvenu. On peut même avoir 70 ans s'il s'agit à un moment donné de préparer ses petits-enfants au baccalauréat ou d'avoir la fierté d'avoir eu son baccalauréat même à un âge un peu tardif. Eh bien, c'est possible ici au lycée d'adultes. Voilà. Voilà, là on poursuit. On rencontre Monsieur Moreau. On pourrait croire que c'est un auditeur, mais non, lui, c'est un professeur.
Bonsoir. Ouais, bonsoir, professeur. Oui. J'avais un élève quand même qui était plus vieux que moi. L'an passé, c'est rare. Hein, qui avait... Manuel, il avait 71 ou 72 quand il a eu son bac.
Exact.
Voilà, sinon, moi, je suis là depuis 1982. Donc, je fais partie un peu des meubles. Et on va ranger d'ailleurs les meubles à la fin de l'année.
Alors, vous, en quoi vous diriez que ce lycée est différent des autres d'un point de vue de prof, justement? Qu'est-ce qui diffère de l'enseignement dans un lycée classique?
Je pense qu'ici, le prof doit beaucoup plus s'adapter à l'auditoire qu'ailleurs. Ici, souvent, ils sont très curieux, il n'y a absolument aucun problème de discipline, on vient travailler avec plaisir, mais souvent, ils manquent et de confiance et de méthode. Dans la journée, parfois, ils ont trop confiance. Non, ici, c'est vrai, c'est une expérience assez étonnante, assez enrichissante. Je dis souvent, mais il ne faut pas trop le répéter si Madame la proviseure est à côté, quand on vient ici, on ne travaille pas. Moi, je rentre dans les classes, on est totalement décontracté. On a des gens qui viennent, qui posent des questions, qui sont curieux. Donc, c'est tout à fait différent. Moi, je n'ai jamais eu un seul problème de discipline à régler ici. Dans la journée, je ne vais pas dire que c'est des problèmes, mais il faut continuer à se battre parce qu'ils sont avec leur téléphone, parce qu'ils dorment sur la table. Donc ici, c'est tout à fait différent.
Parce mais que par ailleurs, vous avez continué à enseigner dans un autre établissement.
Oui. C'est ça. Mais effectivement, ici, la pédagogie, c'est l'aspect psychologique. Leur donner confiance et leur donner les outils pour qu'ils se posent des questions. Les connaissances, ils les ont plus ou moins ou ils les acquièrent, justement, parce qu'ils lisent, ils regardent le journal télévisé. Donc, les notions, il faut bien qu'on les évoque, mais c'est surtout leur apprendre à décortiquer un sujet, à analyser les mots. C'est ça.
Bonjour. Alors, on prend ça. Alors, vous prenez une feuille, bien sûr, faites la correction. Une correction du devoir, du texte de Fontenelle. Alors, première question que je vous posais, c'était la thèse. Hein, quelle thèse Fontenelle défend dans ce texte et par quels moyens il accède à cette thèse ? Hein, la thèse, vous savez ce que c'est une thèse ? C'est l'idée principale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut démontrer ? Alors, Jonathan.
Il veut faire une analogie entre le fait qu'on puisse traverser la mer, que les Américains ils croyaient que ce n'était pas possible,
oui.
Et le fait que nous, un jour, on traversera l'espace, qui est en fait une analogie entre mer et espace.
Bon, alors voilà, donc là, c'est plus les moyens d'y parvenir. Mais c'est quoi la thèse, donc c'est qu'un jour...
On arrivera à aller sur la Lune.
Il ne dit pas qu'on arrivera à aller sur la Lune. Il disait bien... Il y aura un échange, un commerce, hein, comme il dit. Donc, Fontenelle, dans ce texte, défend hein, la thèse...
Bonsoir, je m'appelle Nathalie Jiquel, j'ai 48 ans et je suis actuellement en terminale L au lycée municipal d'adultes.
Et la journée, vous êtes conseillère en immobilier.
Exactement.
C'est quoi votre journée type depuis le moment où le réveil sonne jusqu'à celui où vous rejoignez votre lit ?
Alors c'est courir pour attraper le métro, arriver au travail, me mettre vraiment dans la peau d'une conseillère d'immobilier, savoir passer 90% de ma journée au téléphone. Entre midi et deux, ben, prendre mes cours, réviser avec un sandwich pour pas perdre de temps. Le soir, à 18h, prendre mon sac à main, dire au revoir très rapidement aux collègues et hop, foncer dans le métro pour arriver au lycée du soir, enfin au cours du soir. J'ai tendance à arriver en retard, donc c'est un peu stressant. Mais voilà, et ensuite, 22h, la cloche sonne et hop, on rentre à la maison. Il est 23h et on prend une douche, on mange un petit peu, on recopie les cours et on va se coucher, il est minuit et demi. Voilà ma journée type.
Ça fait un bon marathon.
Ça fait des très très bonnes journées. C'est sûr que le week-end, je suis fatiguée, mais c'est pareil, le week-end, il faut réviser. Mais voilà, on a un objectif qui est le baccalauréat à la fin de l'année. Et donc jusque-là, on essaie de tenir et de rien lâcher. Même si parfois, il y a des périodes, il y a des up and down. Donc dans les down, on s'entoure de la famille et on est reparti, on se rebooste.
Ça fait 3 ans que vous êtes ici, quasiment, puisque vous avez commencé par la seconde. Il y a déjà eu des downs, tellement downs, que vous vous êtes posé la question d'arrêter ?
Alors, en toute transparence, oui. Mais à partir de la première, et là, je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est une obligation pour moi d'avoir le baccalauréat, parce que ça ouvre beaucoup de portes. Et oui, il y a des descentes, mais on se remonte très rapidement.
Quand vous aviez 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans le cursus classique ? Qui a fait que vous n'avez pas eu votre bac et que vous l'aurez sûrement bientôt dans quelques mois ?
Tout simplement, j'ai dû arrêter en troisième puisque j'ai eu, pour des raisons familiales, une baisse de notes très significative. Et le système scolaire étant en fait ainsi que, on m'a dit, bon, les notes sont faibles, tu vas aller, surtout à l'époque à laquelle j'étais scolarisée, tu vas aller en orientation. Donc on m'a orientée sans même me poser des questions comme aujourd'hui, le fait au système scolaire, de savoir exactement mes tenants, mes aboutissants, mes idées. Ils ne sont pas cherchés, ils m'ont mis en orientation. Une fois en orientation, j'étais sortie du système scolaire. Voilà, donc là j'ai arrêté.
Ici, la vie au lycée, est-ce qu'elle ressemble à la vie des lycéens, normaux ? Est-ce que les uns les autres ont leur matière favorite, leur bête noire ? Est-ce que vous parlez des profs pendant que vous buvez des cafés à la pause ?
Mais complètement. On a 17-18 ans. Moi, je me suis fait des amis. On a hâte de les retrouver comme des copains de classe. On se voit le week-end. On rédige des notes ensemble. La cloche sonne. On a une récréation. Enfin, oui, c'est très amusant et c'est très moteur aussi. Parce que quelque part, on n'est pas jugé. On n'est pas. Si bien dans ma classe, il y a des jeunes femmes de 20 ans. Moi, j'ai 48 ans. On s'entend toutes très bien. On sait. Non, c'est vraiment, et c'est exactement le même ressenti que dans n'importe quel lycée, en fait.
Et par rapport à votre entourage, comment ils ont pris votre décision quand vous leur avez annoncé? Et au quotidien, comment ça se passe avec cette triple vie, salariée, maman, étudiante?
Alors, je l'ai caché à ma maman. Elle ne le sait pas. Ce sera la surprise. Du moins, j'espère, je croise les doigts. Mes fils le savent. Et mes fils et ma sœur le savent. Tout le reste de mon entourage, je ne le sais pas. C'est aussi la peur de l'échec. Je me dis, si je loupe, j'ai pas envie d'avoir le regard, même si ce sont mes proches et qu'il n'y a aucun jugement. Mes enfants réagissent plutôt très très bien, ils m'aident. En philo, ils m'aident beaucoup. En histoire, ça va. Mais voilà, il y a des matières comme ça où ils sont très présents. Je ne cache pas que parfois, je préfère faire une petite sieste ou réviser. Ils me disent, ah, non, tu révises. Et c'est très bien. Et c'est très très bien. Et on a besoin aussi, on a besoin de ça. On a besoin de, quand on prend ses études, d'avoir quelqu'un autour de nous qui nous entoure. C'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Et reprendre ses études à 48 ans, c'est pas facile, mais c'est faisable.
La revanche des décrocheurs scolaires, c'était un reportage de Marina Capitaine, disponible à la réécoute sur franceinter.fr. Prise de son, Benjamin Chauvin, Lucien Lefebvre et Martin Troadec. Réalisation Juliette Medeviel, assistée de Martine Messonnier. Mixage, Lidwin Caron. La semaine prochaine, on parlera vélo. La pratique de la bicyclette est en augmentation et devient même un enjeu pour les élections municipales des 15 et 22 mars.
La vraie question, c'est est-ce qu'on fait aujourd'hui des villes pour des voitures ou est-ce qu'on fait des villes pour des personnes ?
Nous serons en selle avec Vanessa Descoureaux.